Vous écoutez France Culture, il est 9h.
Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Au Sri Lanka, au moins 129 morts, dont 9 étrangers parmi les victimes, des centaines de blessés dans 6 attaques à la bombe qui ont touché 3 églises pendant la messe de Pâques et 3 hôtels de luxe ce matin. Plus de précisions depuis New Delhi dès le début de ce journal. En Ukraine, c'est le jour J pour le second tour de l'élection présidentielle. Le pays va choisir entre le président sortant Porochenko et le comédien et homme de télé Zelensky. Nous rejoindrons notre envoyé spécial à Kiev, Nathanaël Charbonnier, dans un instant. En Libye, le maréchal Haftar va-t-il réussir à conquérir l'intégralité du territoire alors qu'une attaque a eu lieu cette nuit à Tripoli. Analyse de Jean-François Daguzan, spécialiste en stratégie internationale. Et puis en France, 7 femmes catholiques à Toulouse ont lancé une pétition sur Internet pour pousser l'Église à avancer radicalement sur les questions de société, arrêter notamment les doubles discours. Nous irons à Toulouse dans ce journal. 6 explosions se sont produites ce matin dans 3 églises et 3 hôtels au Sri Lanka. 3 églises pendant la messe de Pâques, faisant au moins 129 morts. Le bilan est toujours provisoire et s'alourdit d'heure en heure. À New Delhi, les précisions d'Antoine Guinard sur ce qu'on sait pour l'instant de ces attaques.
3 églises du Sri Lanka ont été frappées quasi simultanément par des explosions ce dimanche à Colombo, la capitale, à Negombo, une ville voisine, et à Batticola, dans l'est du pays. Ces attentats à la bombe ont fait un carnage parmi les nombreux fidèles venus assister à la messe de Pâques vers 8h45 heure locale. 3 hôtels de luxe de Colombo, qui accueillent de nombreux touristes étrangers, ont également été touchés dans cette série d'attentats dont on ne connaît pas encore les auteurs. Des images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent de nombreuses victimes couvertes de sang, tentant de venir au secours à d'autres personnes gravement blessées, et le sol des églises ciblées couvert de débris. Un député sri-lankais qui s'est rendu sur le lieu de 2 des attentats a fait état, je cite, de scènes atroces, alors que le bilan semble s'alourdir d'heure en heure. Sur Twitter, le ministre sri-lankais des Finances, Mangala Samarawira, a décrit ces attentats comme, je cite, « une tentative savamment coordonnée de semer la mort et le chaos dans le pays ».
On atteint maintenant le nombre de 138 morts dans ces attaques. Et à l'instant, le Premier ministre du Sri Lanka condamne des attaques lâches, selon ce tweet. L'Ukraine, à la veille d'un choix inédit, on est maintenant le jour J pour l'élection présidentielle. 134 millions d'électeurs votent en ce moment même. Le deuxième tour de cette élection oppose le président sortant, Petro Porochenko, à un comique et homme de télévision, Volodymyr Zelensky. Un vieux renard de la politique contre un jeune novice. Les Ukrainiens doivent trancher aujourd'hui, donc Nathanaël Charbonnier. Un choix inédit et un résultat qui pourrait encore réserver des surprises.
Il faut se méfier des sondages, on le sait, mais ceux pour le second tour de l'élection sont sans appel. Zelensky est donné vainqueur avec 70% des intentions de vote contre 30% pour Porochenko. Une avance considérable qui sera peut-être freinée au dernier moment par la peur de l'inconnu. C'est ce qui s'est dit vendredi, notamment lors du débat inédit dans le stade olympique de Kiev entre les deux finalistes. Les partisans de Porochenko ont surligné le manque d'expérience de leur adversaire et surtout le flou qui entoure son projet. Que va-t-il faire sur le dossier du Donbass, de l'Europe? Le président sortant a tenté sur ces sujets de le mettre en difficulté.
Rien n'est encore joué, Nathanaël.
Il faut se méfier des commentaires que l'on peut entendre ici à Kiev. La ville est acquise au président sortant, tout comme l'ouest du pays. Mais voilà, Kiev n'est pas l'Ukraine et le vent qui souffle ici n'est plus celui de la place Maidan et de sa révolution. Fini le temps où il s'agissait d'accrocher le pays à l'Europe et pas à la Russie. Aujourd'hui, même si le sujet reste d'actualité, c'est un autre qui préoccupe les esprits. Les Ukrainiens en ont assez de la corruption, celle qui gangrène le pays et qui est accusée de tous les maux. La guerre dans le Donbass qui dure, c'est à cause d'elle. Les difficultés économiques du pays, où le salaire moyen est de 300 euros, c'est de la faute de la corruption. La corruption est partout, en tout cas sur toutes les lèvres. Et qui d'autre qu'un candidat anti-système pour en venir à bout? Zelensky l'a bien compris, alors il insiste et appuie là où ça fait mal, en soulignant que le président sortant est un homme riche dans un pays pauvre. Le discours fait mouche et parle au cœur des Ukrainiens. L'heure ici n'est pas de savoir si Zelensky a le CV du parfait homme d'État. Non, l'heure est de trouver celui qui s'attaquera véritablement au problème. Et visiblement, cet homme providentiel est un comique.
Nathanaël Charbonnier, envoyé spécial de France Culture à Kiev avec les moyens techniques de Laurent Macchietti. En Espagne, aux élections législatives, les socialistes arriveraient en tête au scrutin du 28 avril prochain, sans pour autant disposer de la majorité absolue au Parlement, selon 2 enquêtes d'opinion publiées hier soir par le journal El País. En Libye, plusieurs frappes aériennes et des explosions ont touché Tripoli cette nuit, après une nouvelle journée de violence dans les quartiers sud de la ville. Les forces de l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar ont lancé depuis plus de deux semaines maintenant une offensive contre la capitale. Mais elles ont été stoppées, ces attaques, dans les faubourgs sud par les troupes du gouvernement d'Union nationale. Les autorités ont fermé le seul aéroport international, celui de Tripoli, coupant toute liaison aérienne dans cette ville d'environ 2,5 millions d'habitants. Alors dans ce contexte, le maréchal Haftar va-t-il réussir à prendre l'intégralité du pouvoir en Libye ? L'homme fort de l'Est du pays semble revigoré par les soutiens qu'il a récemment obtenus au niveau international. Mais cette stratégie peut-elle être gagnante ? Écoutez la réponse de Jean-François Daguzan, spécialiste en stratégie internationale et vice-président de l'Institut Choiseul.
La stratégie du maréchal Haftar est une stratégie à haut risque. Le rapport de force dans ce pays est lié aux allégeances des uns et des autres. Je pense aux tribus, je pense aux groupes armés, je pense aux Toubous. À partir de là, la capacité à remporter une victoire définitive est toujours sujette à caution. Bon, apparemment, Haftar a décidé de tenter le coup dans la mesure où il pense qu'il a désormais suffisamment de soutiens internationaux pour ne pas être tenu de respecter les accords que des années de négociations avaient péniblement essayé de mettre sur pied. Washington et Moscou, pour une fois, ont un intérêt partagé à ce que la sécurité de la Libye soit assurée d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas d'ailleurs que Moscou et Washington, l'Égypte et les Émirats sont des soutiens également du maréchal et dans une certaine mesure par la France qui se retrouve dans une situation délicate aujourd'hui parce que à la fois elle soutient les accords de paix et le gouvernement de Tripoli tout en ayant apporté de l'aide technique au maréchal pour sa lutte contre le djihadisme.
À Rio, deux nouveaux corps ont été trouvés dans les décombres des deux immeubles qui se sont écroulés, des constructions illégales. Donc cet effondrement qui s'est produit le 12 avril dernier, on atteint maintenant 22 morts dans cette catastrophe. Une personne est encore portée disparue selon les pompiers brésiliens qui comptent aujourd'hui une dizaine de blessés dont trois encore hospitalisés hier. Le drame a eu lieu dans un quartier populaire de l'ouest de Rio contrôlé par des milices. France Culture, il est 9h07. Des femmes catholiques ont décidé de lancer une pétition pour faire avancer l'Église sur les questions de société. Elles ont posté leur pétition sur Facebook et change.org. En tout, elles sont 7 femmes toulousaines qui sont ou bien qui ont été très engagées dans l'Église et elles dénoncent une institution qui se rigidifie et pratique en permanence le double langage. Stéphane Iglesias les a appelées, il les a rencontrées à Toulouse.
Leur pétition parle d'une église qui tombe en ruine, qui a défiguré le message d'amour et de libération qu'elle est censée annoncer. Des femmes qui soulignent aussi le scandale d'une pédocriminalité massive, le double langage des prélats du Vatican, qui dénoncent l'homosexualité tout en la pratiquant. Elles pointent aussi le fait que les femmes laïques sont mises de côté dans leur paroisse. Véronique Billard, l'une des signataires.
Nous vivons dans une église qui est surtout verticale et avec des paroissiens qui ne parlent que de vision, que de louange, que d'adoration, que d'Esprit Saint, que de confession, que de culpabilisation.
Autre signataire, Annie Breuil, qui a créé une des premières maisons de chômeurs. Elle souhaite obtenir un lieu ouvert qui puisse attirer à l'église des gens qui n'y viennent pas naturellement.
En fait, notre appel, c'est pour faire du neuf. Les paroisses se vident. Nous pouvons proposer quelque chose si toutefois nous sommes entendus dans notre diocèse.
Le vicaire général de Toulouse, Hervé Guignard, déplore cette polémique. Il rappelle que l'église est ouverte, même s'il reconnaît qu'un mouvement identitaire peut exister.
Il y a une très grande diversité en fait des prêtres. Dans la société actuelle, il y a aussi des mouvements plus identitaires, plus conservateurs qui posent la question de la relation homme-femme.
Avant de sortir leur pétition, ces chrétiennes s'étaient adressées notamment à la Conférence des évêques de France et aux nonces apostoliques. Elles n'ont à ce jour reçu aucune réponse.
Le 23e samedi consécutif de manifestation des Gilets jaunes aurait rassemblé près de 28 000 personnes dans toute la France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Une mobilisation en baisse au niveau national par rapport à la semaine dernière, sauf à Paris, où le nombre de manifestants a quasiment doublé par rapport à la semaine précédente. Ils étaient 9 000 à défiler dans les rues de la capitale, selon la préfecture. Au Canada, des fumeurs de cannabis se sont rassemblés hier dans plusieurs villes du pays pour, comme chaque 20 avril depuis plusieurs années maintenant. Mais cette année, ils avaient le droit de fumer leur joint en toute légalité depuis la légalisation au Canada le 17 octobre dernier. 500 personnes étaient réunies à Ottawa devant le Parlement, selon la police, plusieurs milliers à travers le pays. Le Canada est le deuxième pays au monde après l'Uruguay à avoir légalisé le cannabis. La météo, de la pluie au sud sur la région Occitanie, du soleil partout ailleurs et des températures comprises entre 13 et 21 degrés ce matin, 14 à Toulouse, 17 à Strasbourg, jusqu'à 21 degrés maximum à Paris.